Histoire d'archives, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas retrouvé Jean-Christophe Labadie, directeur des archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver après quelques mois d'interruption, on va
Oui,
dire.
un rendez-vous manqué,
Voilà.
enfin oublié de ma part, voilà. Et donc du coup, effectivement, aujourd'hui, donc le plaisir de revenir pour évoquer un petit peu notre programme culturel, puisque nous avons dressé jusqu'à la fin de l'année, donc exposition, conférence, lecture d'archives, etc. Voilà, donc toujours un grand plaisir à venir pour évoquer notre travail, donc le travail des 20 agents des archives départementales. Voilà. Alors c'est vrai que on arrive dans une période un petit peu dense au niveau conférence et lecture d'archives, puisque dès ce soir, je vais prononcer une conférence à 20h30 à Entrevaux sur les cadastres d'Ancien Régime et sur le cadastre napoléonien, en évoquant une question qui est fondamentale, qui est la question de la possession de la terre, et puis du statut de la terre sous l'Ancien Régime, et les transformations induites par la Révolution. Alors pour faire très court, hein, je ne vais pas faire la conférence au micro, mais pour faire court, sous l'Ancien Régime, on est dans des pays de taille réelle. C'est-à-dire que c'est en fonction du statut de la terre qu'on paye ou pas la taille, hein, qui est le principal impôt royal, qui est classé dans les impôts directs, hein, même si sous l'Ancien Régime, la différence entre direct et indirect n'a pas de sens, hein, mais pour des questions de facilité. Et donc montrer qu'en fait, une partie des terres échappait à l'impôt, donc toutes les terres nobles, qu'en revanche, les terres roturières payaient donc la taille, quel que soit le possesseur de cette terre. Hein, ce qu'on appelle un pays de taille réelle, c'est-à-dire que si un noble possède une terre roturière, il payera la taille, et inversement, si un non-noble possède une terre noble, il ne payera pas la taille. Ce qui est très différent, en gros, de la partie nord de la France, où on est à ce qu'on appelle un pays de taille personnelle, c'est-à-dire qu'en fait, c'est en fonction du statut de la personne que la taille est payée, c'est-à-dire qu'un noble ne payera jamais la taille. Alors qu'un roturier la paiera. Voilà. Donc c'est une différence qui est évidemment très très importante. Et on le sait grâce, on connaît les montants grâce aux livres, ce qu'on appelle les cadastres en Provence. Donc ils sont des livres qui sont des gros volumes, hein, vraiment manuscrits, qui sont refaits régulièrement tous les 20, 30 ou 40 ans, parce qu'il faut réactualiser évidemment les détenteurs des terres. Et donc ce sont quelquefois des très très beaux volumes. Quelquefois même il y a un décor en première page, et on a donc la liste de tous les taillables, quel que soit, en commençant en général, enfin même quasiment toujours par les personnages les plus importants du lieu, hein, de la communauté, et puis en allant comme ça, et en montrant toutes les modifications, un peu comme le cadastre napoléonien, où on rature, on change les noms, une terre peut avoir été vendue, donc du coup c'est à nouveau. Voilà. Il y a une deuxième notion qui est importante sous l'Ancien Régime. C'est la question de la propriété éminente et de la propriété réelle. Alors, c'est une notion un peu complexe pour nous aujourd'hui. En fait, ça vient du droit romain. La propriété réelle, c'est celui qui vraiment exploite le bien, hein, qui possède donc une propriété réelle, mais il y a une propriété éminente qui est celle du seigneur sur cette terre et qui justifie justement le paiement de droits. Voilà. Donc il y a les deux. Et il y a, dans certains cas, le seigneur peut récupérer la propriété réelle quand, par exemple, quelqu'un ne peut plus payer l'impôt seigneurial. Il faisait ce qu'on appelle déguerpit. Hein, et donc quand il déguerpit, le seigneur peut récupérer la terre. Voilà, et devient à ce moment-là propriétaire éminent et propriétaire réel. Voilà, donc c'est des notions évidemment un peu complexes, hein, à comprendre, mais qui sont très importantes sous l'Ancien Régime. Voilà, donc ça c'est pour Entrevaux. Donc je vais vraiment présenter les cadastres d'Entrevaux. J'amènerai d'ailleurs des documents cadastraux, hein, pour que les personnes qui assistent à la conférence voient vraiment ce que c'est, hein, puissent regarder, voir comment c'est rédigé. Enfin voilà, c'est vraiment intéressant. Et on a donc la description. Alors c'est très utilisé par les historiens parce qu'on a la description des terres, leur localisation, leur confrontation, hein, où elles se situent en fait, et puis leur superficie, leur nature, hein, de quoi il s'agit. Et le montant, alors ce n'est pas le montant de la taille, c'est la proportion que la personne, c'est en fait un pourcentage, d'une certaine manière, que la personne va payer en fonction du bien qu'il possède par rapport à l'ensemble de la communauté. Voilà, donc alors on a une évaluation, mais qui est une évaluation qui correspond plutôt à un pourcentage. Voilà, donc ça c'est pour ce soir, 20h30 à Entrevaux.
20h30, c'est pas un horaire habituel pour les conférences.
C'est un peu tard.
Hein
c'est
enfin,
un peu tard. Oui, c'est un peu.
Souvent, c'est 18h30.
C'est 18h, ouais. 18h. En général, c'est 18h.
Ouais.
Donc là, c'est aussi organisé par une association hein, qui publie d'ailleurs un très très beau régulièrement. Hein, donc, ils publient une revue hein, qui s'appelle Au fil du coulon. Donc, c'est eux qui ont choisi l'horaire. Ça doit correspondre aussi à peut-être un temps de vacances. Hein, voilà, donc les gens ont plus le temps, peuvent venir plus facilement le soir. Voilà. Mais c'est vrai que on prend un risque, hein, 20h30, on ne sait jamais trop. Mais c'est toujours compliqué de fixer une heure parce que si vous faites trop tard, vous tombez au moment du repas. Voyez, donc il faut trouver soit plus tôt, soit plus tard. Voilà. Donc là, c'était choisi. Voilà, donc c'était à la salle polyvalente. Ensuite, dimanche, j'enchaîne avec une autre conférence. Cette fois-ci à 17h à Réanne, à la salle des fêtes, dans une journée qui est consacrée, alors qui est organisée par la commune en fait, hein, et qui est consacrée à la question de la résistance et de la libération. Donc moi, pour ma part, hein, je vais faire une conférence sur un sujet que je travaille depuis longtemps, qui est donc la répression de la résistance. Par la 8e compagnie Brandebourg. Alors, je ne vais pas. J'en ai beaucoup parlé. Hein.
Oui, oui.
Voilà, c'est une compagnie qui est basée en Vaucluse, qui a pour. Une des compagnies de cette division Brandebourg, en fait, est basée en Vaucluse. Sa mission, c'est de détruire les maquis. Alors, soit en commençant par des infiltrations, par. Une infiltration soit dans le maquis lui-même, soit dans l'environnement civil. Et puis ensuite, une action armée qui se traduit le plus souvent par des assassinats, en fait, hein, par des meurtres. Et qui est la particularité de cette compagnie, c'est qu'elle est en fait formée pour l'essentiel de Français qui sont commandés par des cadres allemands, qui sont des Allemands nés à l'étranger, hein, pas nés en Allemagne, donc qui ont des compétences linguistiques évidemment qui dépassent largement le cadre allemand, et des Français qui donc peuvent être parisiens du Sud-Ouest. Et même du Sud-Est, hein, puisqu'on a des Marseillais, des Niçois, voilà. Les populations qui sont confrontées à ces individus sont toujours très étonnées de voir des hommes en uniforme allemand qui parlent le provençal, quoi. Voilà. Donc c'est tout à fait, ou le Niçois. Donc c'est tout à fait étonnant. Et voilà. Donc ça sera encore l'occasion de revenir dessus. Alors évidemment, comme à chaque fois quand je fais ce type de conférence, je prends des exemples locaux. Hein, donc il y a une partie un peu générale, hein, ce que c'est que la compagnie Brandebourg, comment elle agit dans le département. Et puis après, je m'intéresse évidemment à un sujet plus local parce que évidemment ça n'a pas la même résonance, hein, pour les personnes qui assistent à ces conférences.
Donc ça, c'est à Réanne, salle des fêtes, et c'est le dimanche 27 juillet 2025,
voilà,
à 17h.
Voilà, exactement, le dimanche. Et le soir, je crois que c'est à 21h, en plein air, il y aura la diffusion d'un film. C'est le jour d'après, qui est un film qui a été tourné en partie à Réanne, je crois, et qui est, par exemple, je crois que Richard Boringer joue dans ce film. Voilà, voilà, donc c'est une journée, une après-midi consacrée, une soirée consacrée à cette question-là, et qui a été donc organisée par la commune de Réanne, dans le cadre évidemment du 80e anniversaire de la Libération, hein, puisqu'on est toujours
période.
Voilà. Ensuite, j'enchaîne encore par une autre conférence mardi 29 juillet. Donc cette fois-ci, c'est à Montagnac. Donc alors, c'est à la Chapelle Saint-Christophe. C'est une conférence que je fais régulièrement depuis maintenant quelques années en plein air. Donc c'est assez drôle parce que je me mets sur un petit monticule pour qu'on m'entende bien. J'ai ma petite place en fait, hein, que je retrouve chaque année. Et en face de moi, donc j'ai des gens qui s'étalent sur des bancs qui sont faits pour un pique-nique, parce que en fait à l'issue de la conférence on fait un repas sorti du panier, je crois, hein, l'expression. Voilà. Donc du coup c'est toujours très sympathique, il fait toujours très beau, ça commence normalement c'est 18h. Mais ça commence un peu plus tard, donc on est plutôt, on est un peu, au niveau climatique, c'est plutôt pas mal. On est à l'ombre, hein, parce qu'il y a des arbres. Donc moi, je suis sous les arbres, en fait. Donc les personnes sont à la limite à la lisière, en fait, hein, de cette bande d'arbres. Et donc le sujet, alors chaque année, je change évidemment, hein, c'est pas les mêmes sujets. Et donc cette année, je vais m'intéresser donc aux faits divers basalpins. Alors là, c'est pareil, c'est un sujet que je travaille depuis aussi, depuis l'affaire de l'URSS, en fait, hein, depuis 2019, puisqu'on avait fait en 2019 une exposition autour de cette affaire, et un ouvrage, d'ailleurs, on avait publié un ouvrage qui s'intéressait au contexte de l'affaire. Donc depuis, je m'intéresse toujours à ces questions-là, et je vais en particulier traiter de la période de l'entre-deux-guerres, jusqu'à l'affaire de l'URSS, en fait, puisque la période entre-deux-guerres est une période où il y a beaucoup d'homicides. J'ai compté au moins 55 personnes homicidées, mais en réalité plus, parce que j'en ai retrouvé qui ne sont pas évoquées d'un point de vue judiciaire. Mm-hmm. C'est par la presse, en fait. Hein, donc j'en ai au moins 56 maintenant. 37 affaires, et un quintuple meurtre et un septuple meurtre. Donc le septuple meurtre, c'est à Lardier. C'est un jeune homme qui tue une famille, les parents, donc le père, la mère et les trois enfants, et qui ensuite, après avoir tué cette famille, tue deux bergers, et qui ensuite se suicide pendant une chasse à l'homme, hein, vraiment, qui est organisée localement. Et un quintuple meurtre à Valensole. Alors, qui est le meurtre, j'allais dire, qui est l'assassinat de référence, on va dire, avant l'affaire de l'URSS. Hein, c'est vraiment l'événement, en fait, hein, qui marque vraiment les esprits, puisque là aussi, c'est une famille qui est exterminée. Donc, le père, la mère, les deux enfants et le domestique agricole par deux enfants, presque, hein, puisque l'un n'a pas 18 ans et l'autre n'a pas 16 ans. Et celui qui a 18 ans sera guillotiné. C'est le dernier guillotiné du département entre la maison d'arrêt et la cathédrale Saint-Jérôme. Hein, la guillotine sera installée là. Et donc, il sera guillotiné à cet endroit. Donc, c'est pour rappeler que dans un département qui compte, entre 85 et 90 000 habitants. Hein, donc, vous voyez la proportion. Alors, j'avais traité, il n'y a pas très longtemps, cette affaire-là, en prenant l'angle des féminicides. Parce qu'il y a aussi... Dans tous ces décès, beaucoup de femmes qui sont tuées, alors soit par leur époux, soit aussi par leurs anciens amants. Tout ce qu'on connaît dans le cas des féminicides. Et donc c'est un sujet vraiment. Et alors ce qui est intéressant, c'est que alors féminicide plus les enfants aussi, quelquefois. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait la presse ne s'intéresse pas du tout au féminicide. Mais vraiment pas.
C'est vraiment, cette époque-là.
Oui, ça donne un lieu à 4, 5, 10 lignes. Mm-hmm. Alors que, évidemment, le meurtre de Valensole, le crime de Lardier et d'autres crimes encore ont une résonance, vraiment. Et alors, souvent dans la presse, c'est intéressant aussi parce que. C'est toujours intéressant de voir le traitement journalistique, puisque c'est ce que les gens lisent, en fait. Hein, ils n'ont pas accès, évidemment, aux dossiers judiciaires. C'est de montrer toujours... Alors, soit les journalistes jouent le côté, désespéré du lieu, vous voyez. C'est-à-dire qu'en fait, on vit dans un endroit... le meurtrier vit dans un endroit absolument abominable, vous voyez. Ou l'inverse, le crime abominable dans un cadre, évidemment...
idyllique.
tout à fait, au contraire, paradisiaque. Ouais. On joue vraiment les contrastes. Alors, soit on joue le contraste crime horrible dans un cadre qui, évidemment, est à l'inverse, à l'opposé du caractère sordide du crime, ou au contraire, un crime horrible dans un lieu désespéré, quoi, vous voyez, où finalement, il n'y a plus d'avenir. Et alors... Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y a un journaliste parisien qui va s'intéresser à ces crimes, parce qu'il y a vraiment... Je parle de l'entre-deux-guerres, c'est 20 ans, hein, mais en réalité, c'est surtout dans la deuxième période, dans la dernière décennie, hein, dans la deuxième décennie, qu'il y a le plus de meurtres. Et donc un journaliste parisien va venir s'intéresser, faire un reportage, hein, vraiment. Donc il va enquêter, il va se déplacer. Alors il va aller du Haut-Var, en gros, hein, puisque le Haut-Var est aussi assez atteint par ses problèmes, jusque donc les Basses-Alpes, hein, jusqu'à l'Ourse même aussi. Hein, donc il va développer une thèse, hein, qui est les crimes de la solitude. C'est-à-dire qu'en fait, il met en relation, alors il n'y a pas que ça, il y a d'autres, mais il met en relation la dépopulation et la criminalité. C'est-à-dire qu'en fait, plus la dépopulation est importante, plus la criminalité est importante, les crimes de la solitude. Et puis, il amène aussi d'autres arguments, l'atavisme, l'alcoolisme et ce qu'elle appelle, c'est pas le mot exact, mais ce qu'elle appelle l'influence italienne. C'est-à-dire en fait le fait que dans la population basalpine, il y a une part d'origine italienne qui pour lui, est une des causes de la criminalité. Vous voyez, donc c'est intéressant aussi de voir un petit peu quelles sont les thèses. Alors ce journal s'appelle Pierre Cize, est un journaliste de niveau, un grand journaliste parisien en fait, va couvrir l'affaire de Munissi, donc l'affaire de l'Urss, hein, en 52, et va reprendre exactement la même thèse. C'est-à-dire en fait, en gros, pour lui, l'affaire de l'Urss, c'est. Le point d'orgue, d'une certaine manière, ou presque le point final, d'une certaine manière aussi, de ce qu'il avait développé dans l'entre-deux-guerres, hein, la thèse qu'il avait développée. Il communique d'ailleurs, il est en relation avec Jean Giono. Il l'avait rencontré d'ailleurs avant la guerre, hein, lors de son reportage, et Jean Giono lui reproche cet excès, en fait, dans sa thèse, et lui dit « Mais non, je ne change rien, pour moi, c'est vraiment la même chose, en fait. Hein, » voilà. Donc après, quand vous décryptez par rapport à ce qu'il propose, vous voyez, vous avez une autre façon de voir les choses. Voilà. Alors, évidemment, ce n'est pas la seule thèse, hein, qui explique l'affaire de l'Urss, hein, mais enfin, c'est une thèse qui a une résonance très forte, parce que c'est un grand journaliste, en fait. Voilà. Mm-hmm. Voilà, donc ça c'est donc à Montagnac, le 29 juillet, à 18h. Alors là, c'est pareil, c'est dans le cadre d'un festival, 3 jours, hein, qui est organisé par les chemins de la Rabasse, hein, qui chaque année donc, propose des conférences, des visites. Et donc je rentre dans ce dispositif qui donne lieu d'ailleurs 2 jours plus tard, donc le jeudi 31, à 18h, toujours à la salle polyvalente, à une lecture d'archives, donc par les comédiens de la Mobile Compagnie. Ça aussi, c'est assez régulier, hein, sur l'école à Montagnac. Voilà, donc c'est l'occasion de voir comment une petite école de garçons et de filles, comment était organisée la vie de ces enfants, hein, et de voir aussi tous les problèmes qu'il y avait, parce que moi j'avais aussi fait une conférence d'ailleurs sur des instituteurs au moment des lois contre le clergé, en fait, hein, donc la séparation en particulier la loi de séparation des églises et de l'État, hein, de décembre 1905, de montrer en fait qu'il y avait à Montagnac 2 clans. Le clan, on va dire, des républicains, hein, et puis le clan ce que les républicains appelaient des réactionnaires. Et donc, vous avez des conflits très, très violents, hein, très, très importants, avec charivari, bruit la nuit devant l'école, enfants retirés, plaintes, etc. Enfin, vraiment une violence des deux côtés, d'ailleurs, hein, qui s'inscrivait donc justement dans ce contexte très, très particulier. Qui évidemment ne commence pas en 1905, hein, c'est un mouvement très très long qui a commencé au 19e siècle et qui donne lieu donc à cette loi de séparation des églises et de l'État. Et donc on a vraiment là aussi et donc un conflit très très important qui sera évoqué dans cette lecture d'archives donc à Montagnac. Le 31 juillet. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour dire, alors c'est pas nous qui faisons c'est pas nous qui organisons ça, mais que le lendemain il y aura une conférence proposée par une ethnographe ou une ethnologue, enfin voilà, américaine, qui avait fait une enquête dans les années 70 à Montagnac et qui va donc évoquer son enquête et qui se propose d'ailleurs, je vais aller la rencontrer parce qu'elle se propose de faire don de toutes ses archives liées à l'enquête aux archives départementales. Voilà, donc ça sera l'occasion comme ça d'avoir une enquête. Alors c'est en fait elle se dit anthropologue, hein, voilà, donc.
Donc le lendemain à quelle heure?
Alors c'est pareil, c'est toujours à 18h, ça sera le 1er août, le vendredi 1er août à Montagnac. Donc ça, c'est aussi, je pense que ce sera un moment important, en particulier pour les habitants de Montagnac, hein, puisque enfin, Montagnac-Montpezat, puisque c'est la commune. Ça sera important pour eux, pour, parce que ça, sans doute ça va rappeler quelque chose. Alors soit des témoins directs, soit par les enfants de ceux qui ont été à l'époque approchés par cette anthropologue américaine. Voilà, donc ça c'est pour Montagnac. Vous voyez, c'est très dense. Hein. On intervient beaucoup avec cette association qui s'appelle Sur les chemins de la Rabasse et du patrimoine, exactement. Mmh. Voilà, et le festival s'appelle Histoire et patrimoine, donc qui est proposé chaque année pendant 3 jours, durant 3 jours, par cette association et qui est très très bien organisée et qui mobilise des bénévoles, mais aussi donc beaucoup de public. Hein. C'est bien fréquenté. Voilà. Ensuite, le 21 août, donc là on traverse un petit peu la période des vacances. Hein, oui. Le 21 août, alors cette fois-ci, ça sera au Fort de Seine, une conférence qui sera proposée par Sylvie Deroche. Alors Sylvie Deroche, c'est notre enseignante du service éducatif aux archives départementales. Hein, elle enseigne au Collège Borély. C'est elle qui donc prépare avec le service éducatif les ateliers proposés qui vont être proposés aux écoliers, hein, parce que je rappelle qu'on est quand même autour de 3 000 écoliers, collégiens et lycéens chaque année, hein, ce qui est une performance, hein, pour un service d'archives dans un petit département. Et donc elle va proposer un sujet qui est très important, la question de l'émigration. Que je parlais tout à l'heure de la dépopulation, mais cette fois-ci, là-bas, on sort un peu du contexte, j'allais dire souvent, c'est Dubaï, hein, on parle de Dubaï, beaucoup de Dubaï, mais en réalité, ce phénomène touche toutes les communes du département, et donc là, elle va parler des émigrés de la vallée de Seine, hein, qui partent, hein, comme les Savoyards, comme les Basques, les Barcelonnettes, qui vont aller vers le Mexique. Les Basques et les Savoyards, c'est l'Argentine, hein, c'est bien connu. Mais il y a aussi ce phénomène, on le retrouve aussi ailleurs, et en particulier donc, dans le pays de Seine. Vous avez des mères, hein, qui se plaignent justement du départ de familles entières, hein, qui vraiment quittent les lieux, laissent tout, en fait, hein, vendent tout, etc., pour s'inventer une nouvelle vie ailleurs. Alors ça peut être aux Amériques, hein, mais c'est aussi en Indochine, c'est aussi en Algérie, etc. Voilà, donc ça, c'est un sujet un petit peu nouveau, qui est peu abordé, et donc ça sera l'occasion d'y revenir. J'en parlais hier justement avec des personnes de Prats, hein, parce que hier j'étais à la Javi, à l'invitation du musée, de l'écomusée de la Javi, et où on a évoqué, enfin quelqu'un, une personne a évoqué la question de la transhumance, hein, donc la route, hein, puisque c'est la Javi, c'est la 17e station de la route, hein, qui part de la Croix, qui va jusqu'en Italie, hein, donc ce chemin d'itinérance. Et justement, en fait, c'est un phénomène qu'on trouve partout. Alors, on parle beaucoup, évidemment, des Ubaïens, parce que ce sont eux qui ont commencé, en fait. Hein. Enfin, ce sont surtout eux qui ont réussi. Enfin, pas tous, hein, une partie. Mais si vous voulez, je vous propose d'évoquer cette question juste après une petite pause musicale, hein, comme ça. Hein, voilà, parce que c'est un sujet, en soi, que je vais un peu développer, parce que je travaille aussi sur le classement d'un fonds qui est en lien avec ce sujet-là. Donc, comme ça, ça sera l'occasion de l'évoquer.
Alors, vous nous avez apporté un disque de Dominique A. Est-ce que je mets la première...
La 2.
La 2.
Oui. Allez. Alors, la 2, c'est « Il ne faut pas dire du mal... » Je ne sais plus le titre.
« Il ne faut pas souhaiter la mort des gens. »
Oui, parce que ça les fait vivre plus longtemps.
Voilà, d'accord.
C'est dans la chanson. Voilà. Okay. Donc, en fait, c'est un peu personnel. Voilà. Alors, c'est une maxime, hein, que j'essaie toujours de m'appliquer, hein, parce qu'on est tous toujours un peu, quelquefois, vous voyez, un peu comme ça, on a du ressentiment, etc., par rapport à quelqu'un ou par rapport, etc. Et donc, j'essaie d'appliquer cette maxime. Hein, « Il ne faut pas souhaiter la mort des gens. » Parce que justement, ça les fait vivre plus longtemps.
Alors, par Dominica.
Voilà, par Dominica. Donc, ce n'est pas son premier disque, mais c'est celui qu'il a révélé au public, en fait. Hein, puisque dessus, il y a justement son grand succès d'époque, qui est 22 Bar, en fait, hein, qui était le grand tube, le 3. Mais là, ce n'est pas celle-ci que j'ai choisie, c'est la 2. Voilà.
Allez, on l'écoute.
celui qui ment, il ne faut pas souhaiter la mort des gens. Il y a bien des cas où, mais même dans ces cas où, il ne faut pas souhaiter la mort des gens. Ça n'est jamais assez méchant. Tout le fiel, impeccable, s'abstient de tout effort. Pour parler comme il parle, pour se faire fort d'avoir tort. Même au propriétaire, à la vieille, à l'affût, il ne faut pas souhaiter la mort des gens. Il y a bien des fois où, mais même pour ces fois où, il ne faut pas souhaiter la mort des gens, ça les fait vivre plus longtemps. Celui que l'on aime bien, il s'accroche, il s'accroche. On rêve de le faire boire, dans la joie, l'épuiser. À ceux qui meurent, qui s'en vont pour de bon, dont on ne peut plus souhaiter la mort. C'est l'heure de pardonner, l'amour en bon dernier, déballe sans y croire des trésors, puis se fait passer sur le corps. Et le temps de se faire oublier est bien long. Tant que d'autres ont encore de quoi vous dénigrer. Avec tout le temps qu'on leur prend, pour nous haïr c'est indécent de souhaiter la mort de ces gens. Aux bavards patentés, à la femme furibarde, avec tout le temps qu'on leur prend, pour nous haïr c'est indécent de souhaiter la mort de ces gens.
Voilà, Dominique A, donc un artiste à redécouvrir peut-être.
Oui, c'est vrai. Alors, on regardait pendant la pause musicale, c'est un disque qui a 30 ans quand même, hein, 1995. C'est absolument incroyable comme le temps passe vite. Voilà. Voilà, donc j'en étais donc à la question, je reprends un peu le fil.
Les émigrés de la Vallée de
Seine. Oui, voilà, j'étais donc à les émigrés de la Seine. Donc j'évoquais la question justement, toujours, quand on parle d'émigration, on parle soit de l'émigration, enfin l'émigration italienne, hein, en particulier en Ubaye, mais aussi dans le reste du département, ou de l'émigration ubayenne, en particulier donc, en Louisiane, mais surtout au Mexique, hein, puisque c'est vraiment la chose qu'on retient. Et en ce moment, alors justement, par rapport à ça, je suis en train de classer un fonds, puisque ça, c'est le travail d'un archiviste, hein, c'est de classer des fonds, et donc est un fonds privé qui fait de deux fonds, en réalité, constitue de deux fonds, le fonds Aimé et Adrien Gassier. Alors, ce sont des gens très importants, fin 19e, début 20e. Le premier, Aimé, est maire de Barcelone, conseiller général, député, sénateur, et son frère. Et avec son frère, ils sont fondateurs de la banque Gassier Frères, hein, qui a deux implantations, Barcelonnette et Gap, et qui sont en fait... des investisseurs, en fait, hein, des prêteurs et des investisseurs, en fait, ce sont des banques d'affaires, hein, d'une certaine manière, qui ont donc qui tirent leur fortune justement de l'aventure mexicaine, hein, donc qui est très classique, en fait, pour résumer, on est mandataire, en fait, c'est-à-dire en fait, on est des intermédiaires entre les lieux de production textile, la France, mais surtout l'Angleterre, et les Mexicains, donc les Ubayens installés au Mexique, hein, qui ont des grands commerces, hein, donc qui vendent des tissus. Donc on s'enrichit comme ça. Et puis après, quand on est très riche, on investit son argent dans différentes opérations. Alors là, je suis en train de travailler sur une opération qui est la construction, en fait, mais vraiment, hein, de ex nihilo, de nouvelles rues à Antibes, après la destruction des remparts. C'est-à-dire qu'en fait, alors c'est une entreprise un peu compliquée, hein, c'est des montages très complexes. On ne sait pas trop d'ailleurs quelquefois qui vraiment est le capitaliste derrière, hein, qui possède... En fait, ce sont des entrepreneurs qui se chargent de détruire donc, les fortifications et à la place de construire rues, places, grands hôtels, immeubles de rapport, etc. Et donc, Gassier Frères, donc la banque, investit beaucoup, hein, des sommes considérables dans cette aventure qui va se révéler en fait un fiasco parce que bah, ils n'arrivent pas à vendre les terrains ou ils vendent très très mal ou pas cher et pendant 25 ans, ça va durer 25 ans alors qu'ils comptaient vendre tout en 8-10 ans donc évidemment vite récupérer leur capital, en fait ça va durer 25 ans. Or les entrepreneurs ont tout emprunté notamment à Gassier, et donc ils ont des taux d'intérêt qui durent pendant 25 ans, qui sont tellement importants qu'ils n'arrivent plus, et donc ça se termine très très mal financièrement. Quoi. Voilà. Mais ils investissent aussi ailleurs, hein, dans les nouvelles rues de Nîmes aussi, voilà, pareil, hein, on construit des rues avec des immeubles qu'on va vendre ou louer, avec des commerces au rez-de-chaussée, etc. Enfin, vraiment, ce sont des personnes qui investissent, ils investissent même dans une plantation de café en Colombie, enfin, voilà, des choses en Algérie, enfin, oui, en Algérie aussi, ils investissent. Enfin, voilà. En fait, ce sont des gens qui ont beaucoup de capitaux, hein, qui réinjectent dans l'économie pour les faire fructifier, évidemment. Donc ce sont des très, très grands capitalistes. Ce sont des sommes considérables. Hein. Ce sont des fortunes à plusieurs centaines de millions d'euros. Quoi. On n'imagine pas hein, comment ces familles... On réussit, et très rapidement, parce que en fait, à l'origine de cette famille, c'est une personne qui est originaire de Toram Basse, je crois, oui, c'est Toram Basse, et en deux générations, déjà le fils réussit à gagner beaucoup d'argent, et la génération d'après, donc le fameux Gassier frère, vont encore amplifier, vous voyez, en deux générations, la fortune de la famille est faite, quoi. Voilà, et donc après, ça donne des polytechniciens, ça donne des ingénieurs d'agronomie, etc., vous voyez, puisque les enfants, après, font de très bonnes études. Et cette famille, en fait, une des filles Gassier va épouser Alexandre Reynaud, hein, donc les parents de Paul Reynaud, vous voyez, donc on est toujours dans cette, parce que c'est pareil, Alexandre Reynaud, c'est un investisseur, c'est un Mexicain aussi, hein, donc qui a fait fortune. Voilà, donc vous voyez, on retrouve toujours cette petite société qui vit vraiment très confortablement, mais avec beaucoup de travail. Hein. Moi, je suis frappé, je suis particulièrement, Adrien Gassier, je suis frappé par donc le banquier, hein, celui vraiment qui s'occupe de la banque, hein, son frère n'est qu'un associé, il fait plutôt la politique. Je suis frappé par... comment dire, le temps consacré aux affaires, quoi. En fait, il n'arrête pas, il fait des dossiers, des rapports, des courriers, mais il écrit tout le temps, enfin, des courriers, mais c'est absolument incroyable. Et puis, tous les problèmes qu'il rencontre, quoi. C'est-à-dire, en fait, c'est quelqu'un qui vit que dans les problèmes, parce qu'il y a des affaires qui marchent, mais il y a aussi des affaires qui ne marchent pas. Donc, avocat, avoué, notaire, enfin, c'est absolument incroyable. Expert, il a l'administration contre lui, parce qu'on considère que c'est lui qui est le vrai propriétaire de la société, qui est chargé... etc. Alors que lui dit n'être que l'administrateur en fait, hein, et n'avoir fait que prêter l'argent, et donc l'administration lui demande de l'argent, considérant que c'est en réalité qu'il y a eu un acte sous sein privé qui n'a pas été enregistré, donc un acte dissimulé en fait, hein, qui en ferait le vrai propriétaire. Vous voyez, enfin, c'est quelqu'un qui est sans arrêt dans les problèmes, qui va décéder d'ailleurs en 1919. Et on dit d'ailleurs dans le discours hein, qui sont faits au moment de sa mort qu'il a été épuisé par, en particulier par les 4 ans de guerre, hein, qui ont beaucoup tracassé. Voilà. Mais je pense qu'aussi ces affaires qui étaient, devaient sans doute aussi beaucoup, beaucoup l'affecter. Hein, parce qu'on le voit dans les relations qu'il a. Puis il a l'impression d'être en fait toujours... comme il a beaucoup d'argent et qu'il toujours est un peu la victime, vous voyez, d'un environnement de profiteurs, et, etc. Quoi. Voilà, donc ça, c'est pour les émigrés de la vallée de la Seine. Hein, donc, une conférence par Sylvie Deroche. Ça sera donc le jeudi 21 août à 18h au Fort. Voilà. On continue. Là, on passe... Alors, je ne vais pas vous faire toute l'année, parce que je reviendrai, hein, parce que l'année se termine en décembre, hein, et donc on a beaucoup d'actualités. Une autre lecture d'archives à table, c'est une lecture qu'on avait commencée, qu'on avait préparée à l'occasion d'une exposition hein, qui s'appelait justement à table, et qui date de 2019 aussi, 2018-2019. Et on s'était posé la question de savoir effectivement ce que mangeaient les riches, mais aussi les personnes les plus humbles. Et donc on avait fait une petite exposition itinérante autour de ce sujet-là, qui avait donné lieu donc à cette lecture d'archives. Et où on s'intéressait aussi donc à qu'est-ce qu'on mangeait quand on n'était pas très riche, quoi. Voilà. Hein, quel était le repas du bas alpin, quoi. Voilà. Voilà. Après, on rentre dans des conférences classiques. Hein. On aura l'occasion peut-être d'en reparler. Je ne vais pas développer parce que là, on est déjà en septembre. Donc peut-être que je reviendrai début septembre pour après les vacances, pour évoquer tout notre programme de septembre, qui est très riche parce qu'il y a aussi les journées du patrimoine, hein, donc qui viennent donc avec beaucoup de conférences. Je vais vous parler un peu de nos expositions, hein, qui sont alors actuellement on a une exposition à la cathédrale Saint-Jérôme, hein, depuis maintenant 15 ans. Hein, nous proposons chaque année, de début juillet jusqu'au 31 septembre, hein, tous les jours, hein, samedi, dimanche compris, jour de fête, de 13h à 18h30, une exposition à caractère religieux. Hein, on s'intéresse au patrimoine religieux, sans faire de prosélytisme, évidemment, hein, puisqu'on est un service public. Et cette année, on a choisi un thème, le thème, c'est Marie. Hein, les apparitions mariales. Donc on a titré Marie avec un sous-titre Apparition 19e siècle, pour rester le plus neutre possible, mais pour raconter. Alors je dis tout de suite, il n'y a pas eu d'apparition déclarée dans le département des Bas-Alpes ou des Alpes-de-Haute-Provence. En revanche, il y a dans les églises beaucoup d'œuvres qui ont trait évidemment aux apparitions. Alors évidemment, la plus importante qu'on retrouve dans les églises, c'est. C'est Lourdes, hein, qui est quand même celle qui a le plus fort écho. Hein, mais il n'y a pas que Lourdes. Il y a tout près de nous, en fait, dans les Hautes-Alpes, le Lot. Hein, donc, où là aussi, alors là, il y a un sanctuaire, hein, qui est important, qui est très fréquenté. Et d'ailleurs, je remercie le recteur, hein, de ce sanctuaire de nous avoir autorisé à nous prêter donc des divers objets qui ont trait donc justement à ces apparitions, hein, donc à Notre-Dame du Lot. Et puis, on en a d'autres, hein, la Salette, la rue du Bac à Paris, etc. Donc, alors, le sujet, évidemment, comme toujours, c'est de s'intéresser d'abord aux œuvres. Et donc ça, je remercie deux personnes en particulier, hein, qui participent à nos expositions depuis très longtemps. Maïna Masson-Lethier. Alors Maïna Masson-Lethier, elle est conservatrice en chef au service régional de l'inventaire de la région Sud PACA. Donc, qui est une grande spécialiste de tout le domaine religieux, des objets, mais aussi des immeubles, hein, pas seulement donc l'aspect immobilier, qui est indispensable. Hein, on n'aurait pas la capacité nous de le faire, hein, puisqu'elle a vraiment, c'est vraiment une spécialiste de ces questions. Marie-Christine Braillard. Alors Marie-Christine Braillard, c'est l'ancienne conservatrice départementale des Alpes-de-Provence, qui s'intéresse beaucoup aussi au patrimoine religieux et qui donc participe aussi à cette exposition. Cette année, on a ajouté d'autres personnes, puisqu'on on s'est un peu élargi. Et je parlais de Lubaye tout à l'heure, mais en Lubaye, il y a une vierge particulière, hein, qu'on retrouve dans les églises. Hein, c'est la Vierge de Guadeloupe. Hein, donc, d'origine mexicaine, en fait. Hein, et c'est Hélène Holmes-Bruce, hein, donc la responsable, la directrice du musée de la vallée donc à Barcelonnette, qui nous présente ce sujet. Et puis enfin, deux personnes importantes du 05, puisque les Hautes-Alpes, puisqu'on parle de Notre-Dame du Lot, Odile Pavot et Catherine Briotet. Catherine Biotret, qui est la conservatrice des antiquités et objets d'art des Hautes-Alpes. Quant à Odile Pavot, elle est spécialiste d'art religieux, et en particulier, elle s'occupe beaucoup des objets de Notre-Dame du Lot. Voilà. Donc vous voyez, c'est un ensemble un peu composite. Hein, donc on est plusieurs à écrire, plusieurs à aborder les sujets. L'objectif étant de... Alors, un, comme je disais, de s'intéresser aux objets, hein, de les décrire, de dire quand ils ont été élaborés, et puis aussi de recontextualiser les apparitions dans le contexte du 19e siècle. Alors tout à l'heure, j'en parlais un tout petit peu quand je parlais de la loi 1905, de la question de la laïcité, puisque c'est un conflit, c'est un combat après la Révolution française qui a imposé le Concordat de 1801, qui remet, signé par Bonaparte et le pape, qui remet en place, d'une certaine manière, qui réorganise l'Église de France et les relations avec, avec le Vatican. Mais tout le 19e est traversé par cette question de l'héritage de la Révolution, mais aussi de la question et de la laïcité, mais aussi la reconquête des âmes par l'Église catholique, en particulier, reconquête qui passe en particulier par l'école, puisque le Concordat ne s'intéresse qu'au clergé séculier, mais ne s'intéresse pas du tout au clergé, aux ordres, qui, eux, vont proposer aux enfants des écoles, donc une éducation. Et donc, on a ce conflit permanent entre les deux. Et évidemment, avec l'avènement de la Troisième République, à partir de 1870, évidemment, les choses vont évoluer vers un choix qui est la laïcité. Mais il y a à l'intérieur de l'Église aussi plusieurs tendances. Il y a des ultramontains, qui sont évidemment très proches des thèses du pape. Il y a aussi une vieille tradition française de l'Église qui est justement une certaine indépendance par rapport à la question, par rapport au pape. On a ces deux aussi, vous voyez, au niveau politique, ces deux tendances qui s'affrontent d'une certaine manière, les ultramontains d'un côté et puis de l'autre, cette idée d'être un peu détaché, d'avoir une autonomie d'une certaine manière. Je cherche le terme, mais je vais le retrouver. Parce qu'en plus, c'est vraiment un sujet à l'époque moderne. Et puis après, à l'intérieur de l'Église, il y a la question comment est appréhendée la question des apparitions, puisque c'est en fait une forme de religiosité populaire qui n'est pas forcément acceptée par les cadres de l'Église, puisque ça les dépasse un peu. Et d'une certaine manière, l'Église va récupérer ce mouvement, un peu de manière un peu imposée, vous voyez, c'est pas vraiment un choix. C'est aussi, d'ailleurs, on retrouve la même chose avec le curé d'Ars, vous voyez, donc tous ces gens, évidemment, de la base, puisque les apparitions, ça concerne des bergers, vous voyez, c'est vraiment du peuple, quoi. Et donc on sort vraiment de cette idée, quand même, on est dans une Église qui est très hiérarchisée, c'est d'ailleurs l'un des problèmes qui avait été évoqué par la réforme protestante, c'est justement toute cette hiérarchie qui est importante, et la révolte protestante, elle est en rupture par rapport à ça. Donc, vous voyez, il y a plusieurs questions, et toutes ces questions sont abordées, évidemment, dans la publication qui accompagne, parce que je rappelle aussi qu'à chaque fois, on propose une publication distribuée gratuitement. Alors, cette fois-ci, elle fait 92 pages, 1500 exemplaires qui partent quasiment tous, très très vite, puisqu'on a des personnes qui viennent même exprès pour les récupérer, vous voyez, chaque année, et qui est disponible aussi d'ailleurs sur Internet. On aborde toutes ces questions qui sont à la fois les questions politiques et les questions religieuses. Voilà. Donc ça, c'est une exposition qui est visible à la cathédrale Saint-Jérôme, qui est ouverte tous les jours, 13h, 18h30. Alors, il y a la possibilité, évidemment, de visiter la cathédrale, puisque les personnes qui viennent pour moult raisons, soit simplement pour les touristes qui viennent voir, d'autres qui viennent prendre le frais, d'autres qui viennent pour prier, et d'autres qui viennent pour voir l'exposition. Puis alors, on a un effet d'aubaine, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a une exposition, mais quand ils voient qu'il y a une exposition, viennent la découvrir. Et en face, il y a une exposition qui est proposée par la pastorale du tourisme sur Monseigneur Miolis, qui a inspiré Victor Hugo pour Les Misérables, pour l'évêque des Misérables. Voilà, donc venez nombreux, parce que vraiment, c'est beaucoup de travail, c'est l'exposition la plus difficile à faire pour nous, vraiment. Ça paraît pas grand-chose. Quand on regarde, il y a peu d'objets, mais c'est un vrai casse-tête parce qu'on est dans un bâtiment qui appartient à l'État, où il y a un affectataire qui est le clergé, où il faut une il faut des autorisations à différents niveaux, vous voyez, y compris pour présenter des objets quand ils sont protégés au titre des monuments historiques. Hein, il faut l'autorisation de la DRAC, vous voyez, donc des assurances. Enfin voilà, donc c'est vraiment un travail. Et puis il faut aller récupérer les objets dans différentes communes. Alors je vais pas vous faire la liste, hein, mais on a été les chercher Barcelonnette, hein, puisque la Vierge de Guadeloupe, mais Barème, Saint-André-les-Apes, Saint-Mêmes, etc. Donc et même une personne qui nous a prêté un particulier qui nous a prêté aussi un objet. Voilà. Donc c'est vraiment pour nous important. Alors c'est celle qui marche le plus aussi, hein, en termes de visites. On est autour, en général, de 4000 visiteurs par an sur les 3 mois, hein, sachant qu'au total, on touche aux archives départementales à peu près entre 14 000 et 16 000 personnes par an. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des 3 000 élèves. Des fois, on est à 3 500, des fois un peu moins. Cette exposition-là, plus toutes les autres expositions, plus l'année dernière, rien que les conférences, c'est 2 000 personnes. Ouais, donc, on a assisté à 35 conférences.
Donc, on rappelle, c'est de 13h30 à 18h.
Voilà, exactement.
Tous les jours. À la cathédrale Saint-Jérôme, voilà, à Digne-les-Bains.
Exactement.
Marie, apparition du XXe siècle, c'est ça?
Oui, exactement, XIXe siècle.
Hein. XIXe siècle.
Voilà. Oui. Voilà, et donc ça, c'est bon. Après,
et jusqu'à quand, pardon?
Pardon?
Jusqu'à quand
l'exposition? Alors, ça sera jusqu'au 31 septembre.
31 septembre.
Enfin, 30 septembre, pardon. Oui, parce que le 31 n'existe pas. D'accord. Donc, le 30 septembre, voilà. Je crois que c'est un mardi, de mémoire. Voilà, donc, et tous les jours, hein, du lundi au dimanche, voilà. Voilà, après, aux archives départementales aussi, on a d'autres expositions. Alors, une exposition maintenant qui commence à être bien installée, c'est « En voiture, s'il vous plaît ». Hein, donc, autour de la situation d'automobile. Hein, et on en a une autre qui est prêtée par la médiathèque le musée de la vallée de Barcelonnette, hein, la médiathèque de Barcelonnette, qui a été donc conçue par ces deux institutions, qui concerne donc Jean-Antoine Manuel. Alors, Jean-Antoine Manuel, il a été un petit peu oublié, mais c'est un député donc basalmain qui a été expulsé de la Chambre en 1823. Alors je crois que c'est le seul député qui n'ait jamais été expulsé de la Chambre et qui est important puisque, je dis toujours, la place principale de Barcelonnette, hein, qui est en plein centre, c'est la place Manuel, hein, qui fait référence donc à ce député. Et ça, c'est donc présenté bah, aussi aux archives départementales. Voilà. Autre exposition qui est présentée aujourd'hui jusqu'au 18 août à l'Office de tourisme de l'Arche. Puisque dans le cadre toujours du 80e anniversaire de la Libération, ce sont les combats de l'Ubayette, hein, c'est la deuxième bataille des Alpes, hein, la première étant en 40, et qui est présentée donc tous les jours de 9h à 12h et de 13h à 17h, donc tous les jours, hein, jusqu'au 18 août. Et à partir du 19 août, l'office est enfermé le week-end, mmh. Ce n'est que la semaine, et elle va durer jusqu'au 14 septembre. Voilà.
Donc ça, c'est à l'office de tourisme d'où ?
Alors, de Val-de-Renaille, hein, la commune de Val-de-Renaille, mais à l'Arche, hein, puisque la commune de Val-de-Renaille, c'est deux communes qui se sont associées, Méronne et l'Arche. Voilà, donc là, c'est à l'Arche, hein, donc il faut aller... jusqu'au bout, hein, au bout du bout de Dubaï, hein, comme si on allait en Italie. Et quand si on a l'occasion d'aller en Italie, ben on s'arrête à l'Arche. C'est très facile à trouver, hein, c'est vraiment... voilà. Et donc, elle est proposée... ce sont des combats qu'on a un petit peu oubliés, hein, qui sont... parce qu'on dit toujours que la libération du département, c'est août. Alors, effectivement, officiellement, hein, je crois que c'est le 19 ou le 20 ou le 21 août 1944, mais en réalité, il y a encore une petite partie, hein, qui est occupée, l'Arche Méronne, hein, qui donne lieu à des combats entre Allemands et Français. Et donc, l'offensive... donc, en avril 45, hein, printemps 45, qui va... le 22-26 avril, qui va aboutir au rejet des troupes côté italien, et puis donc la libération totale du département. Voilà. Et qui va quand même faire au total, l'armée des Alpes, hein, c'est 1500 morts quand même. Et donc ce n'est pas rien, quoi. Voilà, hein, voilà. Voilà. Pour l'ensemble de l'armée des Alpes, hein, évidemment. Voilà, ça c'est donc pour...
les expositions.
Et puis donc, et j'en parlerai donc à la rentrée. Les archives entrent en scène. Donc là, on va essayer de montrer des archives dans un cadre un peu particulier, enfin, avec un dispositif un peu particulier, en faisant une analogie, en utilisant plutôt comme support l'idée du théâtre ou du cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, on va reprendre le vocabulaire du théâtre et du cinéma pour mettre en valeur nos archives, tête d'affiche, rôle secondaire, etc., comme on le trouve, avec ceux qui sont choyés, etc. Voilà, ça sera l'occasion à la fois de parler du métier, de montrer ce qu'on a, mais aussi de le présenter de manière un peu originale, et non pas simplement de manière un peu statique. Voilà. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. On en reparlera donc à la rentrée,
donc on va
pour la suite,
on
parce que le programme est très très riche.
Pour le mois de septembre.
Voilà. Donc on donne rendez-vous aux
auditeurs le jeudi 4 à 9h sur 99.3.
Et ben voilà, c'est parfait.
Pour Histoire d'archives avec Jean-Christophe Labadie. Merci beaucoup.
Merci à tous.
Bonne journée, au revoir.
Merci, au revoir.